Merci d'écouter le studio Kalangu. Il vient d'être à 18h, le journal, dans une présentation d'une fils Adam Sirfo. Les titres. Le comité directeur de l'Union des scolaires du Niger condamne l'exclusion des 5 responsables de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. C'était hier dans une déclaration. À suivre dans ce journal, le point sur la scolarisation de la jeune fille dans le département de Wallam, région de Tillabéri. Comment le Niger prévoit-il de faire son avancée dans la production d'énergie solaire d'ici 2030? Réponse dans la partie magazine de ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens et ses 3 sections de Niamey ont rendu public hier 15 mars une déclaration de presse conjointe relativement à l'exclusion par le conseil de l'université de Niamey de 5 responsables de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Selon le secrétaire général du comité directeur de l'USN, je cite, c'est une décision injuste, disproportionnée et illégale. Al-Ghabid Ider au micro de Ternan Foudey Ahmed.
On ne peut pas aujourd'hui frapper les étudiants avec tous les bâtons. Être en grève et après encore exclure les étudiants, c'est une grande contradiction. C'est suite à cela que nous avons rendu publique une déclaration hier pour en tout cas vestiger et condamner évidemment les mesures incongrues de ce conseil de l'université. Et secondo, nous avons aussi demandé la réhabilitation de nos camarades injustement évidemment exclus. Et au-delà, nous avons interpellé solennellement le président de la République pour qu'il prenne toutes ses responsabilités par rapport à cette situation. Et nous avons donné au comité exécutif en affaires courantes la latitude de continuer évidemment cette lutte-là jusqu'à un dénouement heureux.
Vous avez décidé de boycotter les championnats scolaires qui se tiendra à Maradi et les Jeux universitaires d'Agadez. Est-ce que toutes les sections obéiront à ces mots d'ordre que vous avez lancés?
Par rapport aux Jeux universitaires, je n'ai aucun doute. Maintenant, par rapport aux championnats scolaires, certainement, il ne peut pas y manquer parce que l'ouverture du championnat est prévue pour demain.
Al-Ghabid Ider, secrétaire général du comité directeur de l'USN que vous venez d'écouter. Le point sur la scolarisation de la jeune fille à l'école Diakwara 1 de Wallam, visité par notre reporter Rukayatou Abdrahman. Écoutez ce reportage.
Ici, on va essayer de reprendre l'explication.
Cette classe de CM2 de l'école Diakwara 1 dans la commune urbaine de Wallam compte un effectif de 118 élèves, dont 51 garçons et 107 filles. L'on remarque clairement un effectif élevé des filles par rapport aux garçons. Houssein Djibo, directeur de l'école.
Dans notre école, il y a une bonne fréquentation. Vraiment, les filles viennent régulièrement à l'école. Des cas d'absentéisme sont rares. Nous avons un effectif de 735 élèves, soit 372 élèves filles.
Selon Safi Hamani, institutrice adjointe à l'inspection de Wallam, les filles partent massivement à l'école dans la commune urbaine. Toutefois, il a fallu cibler 10 écoles pour des séances de sensibilisation dans 2 cantons du département pour que les obstacles à la scolarisation des filles soient levés.
Avec le projet, on avait fait des activités de sensibilisation. On était parti dans les villages. Le problème le plus récurrent, c'est la surcharge domestique. Il y a la pauvreté des parents. Il y a les causeries nocturnes. Quand la fille commence à faire les causeries nocturnes là, parfois, ce sont les parents même qui empêchent aux filles d'aller à l'école. On fait des séances de sensibilisation. Avant, vraiment, il y avait l'ignorance. Mais avec l'appui des partenaires techniques et financiers, il y a eu beaucoup de l'amélioration.
L'institutrice d'ajouter que les surcharges domestiques et l'éloignement des écoles dans les villages sont des facteurs non négligeables qui empêchent les filles d'aller à l'école.
Depuis quelques jours, le complexe scolaire Zam de Goudel fait face à une hystérie collective inexpliquée qui touche plusieurs filles de l'établissement. Le témoignage du surveillant du dit établissement Abba Halidou au micro de Alamine Ouachar.
Nous assistons à ce phénomène génitiaque. Ce sont des filles qui tombent, qui rentrent en transe de façon vraiment, j'allais dire, répétitive pendant 3 jours. Plus en plus, le nombre croissait du 1er au 3e jour. Ce qui, effectivement, nous inquiète. C'est une fille de terminale 2 qui était tombée. On l'a évacuée le lundi. Également, c'est la même fille qui tombait. Maintenant, le mardi, c'est une autre fille, cette fois-ci du collège. Et donc, après elle, le même jour, il y a eu une 23, 4 filles donc, qui étaient tombées. Le mercredi, on a eu une dizaine ou une quinzaine. Hier également, il y a eu une dizaine. Ce phénomène ne s'attaque qu'aux filles parce que pour le moment, on n'a aucun cas où c'est des garçons qui sont atteints.
Bien que les organisations de la société civile aient décidé de s'asseoir au mot d'ordre de Ville-Morte qui était prévu hier jeudi 15 mars 2018, à Tillabéri, le mot d'ordre a été exécuté et suivi. Qu'est-ce qui explique cette action des acteurs de la société civile de cette localité? Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, repos au micro de Soumane Amadou.
Tillabéri a fait ce qu'il pense être bon et c'est une très bonne chose. On salue vraiment l'esprit d'initiative de nos camarades de Tillabéri parce qu'ils ont bien préparé. Plus de 90%, on peut dire que vraiment la ville morte a été suivie. C'est un succès complet. Nous, on a estimé ici et ailleurs que en fait, le niveau de préparation n'était pas optimal pour maintenir le mot d'ordre. Donc, on a levé pour se concentrer davantage sur les manifs du 25. En fait, chaque localité s'organise de façon autonome, essaye de voir si l'agenda qui est prévu leur correspond ou pas. Nous, on fait une marche, ailleurs, parfois une conférence que les gens essayent de faire. Donc, c'est ça aussi la particularité du mouvement, c'est que chacun fait en fonction des réalités locales. On souhaite qu'on puisse faire des mouvements d'ensemble, mais si les gens peuvent faire localement des choses, c'est bien et c'est encouragé.
La force française Barkhane stationnée au Mali a mené des actions de lutte contre les groupes djihadistes installés au Mali. Selon un communiqué de l'état-major des armées à Paris, plusieurs éléments djihadistes ont été tués ou capturés. N'est-ce pas, Habibou Garba?
Les forces armées françaises déployées au Sahel pour l'opération Barkhane ont tué ou capturé en un mois une soixantaine de djihadistes dans la zone des trois frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, a annoncé hier l'état-major français. Selon l'AFP, depuis le 15 février, une soixantaine de terroristes ont été mis hors de combat, tués ou capturés, et des matériels saisis ou détruits, des pick-up, des motos, des équipements individuels ou collectifs, du matériel nécessaire à la confection d'engins explosifs improvisés, a détaillé le colonel Patrick Steger dans un point de presse du ministère français des armées. Du 9 au 12 mars, des opérations menées au sud de l'axe Ansango-Manenka, nord-est du Mali, aux côtés des forces armées maliennes, en lien avec les forces armées nigériennes, ont notamment permis de mettre hors de combat une dizaine de terroristes appartenant vraisemblablement au groupe d'État islamique au Grand Sahara.
Récit signé Habibou Garba. À Agadez a eu lieu hier 15 mars une réunion d'échange sur la question migratoire entre les membres de la mission de l'Union européenne conduite par son représentant au Niger et les autorités régionales d'Agadez ainsi que le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix. L'ambassadeur Raoul Mathios Paula se félicite du partenariat Niger-Union européenne de la région d'Agadez. Il est au micro de Moussa Maman.
Dans ce cadre de ce partenariat, je voudrais souligner l'excellence de la coopération et du travail entre l'Union européenne et les États membres. Au-delà donc de la coopération de l'Union européenne qui est très importante, hein, moi je tiens à préciser que pour le Niger, et je crois que Agadez est une des régions qui bénéficie le plus de cette coopération, par tête d'habitant dans le monde, le Fonds européen de développement, le Niger est le pays qui en bénéficie le plus. Déjà, donc il y avait 600 millions d'euros avec le Fonds européen de développement pour le Niger. Il y a eu une revue à mi-parcours qui vient d'avoir lieu et à l'occasion de la table ronde du PDES qui a eu lieu à Paris. Donc il y a eu une augmentation de 90 millions d'euros à ce fonds européen de développement.
La malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans dans les districts sanitaires de Tera est préoccupante. Notre correspondance est entretenue avec le chef service communication du dit district qui nous fait une comparaison avec l'année dernière. Idé Nyandou que je vous propose d'écouter.
Pour ce qui est de 2017, les 42 CSI de l'ancien Tera, la cible c'est les enfants 6-59 mois, c'est 77 874. Nous avons eu pour la malnutrition modérée 8255 enfants. Pour les sévères, 1947 enfants. Pour cette année 2018, c'est seulement janvier et février qui sont en tout cas centralisés. Nous sommes à 691, les sévères et les modérés, sans le décès de Gauté et Bantilari. Les causes de la malnutrition sont multiples. Problèmes de famine ou de difficultés alimentaires. Les maladies comme le paludisme par exemple, les diarrhées pour la prise en charge. Ces programmes-là ont des partenaires. Pour la malnutrition modérée, c'est le PAM qui nous appuie en entrant pour la gestion des enfants malnutris modérés. Pour ce qui est des sévères, c'est l'UNICEF qui nous appuie. L'ONGF aussi nous appuie pour la mise en place de ces entrants. L'État aussi nous appuie à des entrants. Nous voulons vraiment que ça soit du côté de l'État, que ça soit du côté de ses partenaires. Il y ait vraiment une continuité sans rupture.
Fin de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger tenue à Maradi avec la reconduction de l'ensemble du bureau pour un nouveau mandat de 4 ans avec toujours comme président Moussa Sidi Mohamed. Pour lui, les affaires se déroulent au Niger dans des conditions particulièrement difficiles liées à l'insécurité au Niger et dans la sous-région. Il est au micro de Mohamed Maman.
Les actions terroristes et les menaces sécuritaires provenant des pays voisins. La chute des cours internationaux du pétrole et de l'uranium, associée à une croissance lente de l'économie nigériane, continue d'affecter notre situation économique. Les principaux défis auxquels le Niger aura à faire face dans les courts et moyens termes, qui ressortent de l'analyse des tendances récentes et des perspectives, sont, entre autres, la réalisation d'une croissance économique forte, durable, diversifiée, qui permettrait d'améliorer le niveau de revenus par habitant. Le renforcement de la gestion budgétaire et l'amélioration des performances des administrations fiscales face à des déficits budgétaires de plus en plus importants. Le renforcement de la sécurité à travers une réponse régionale apportée pour contrer les menaces multiformes. C'est dans ce contexte que la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a mené ses activités au cours de l'année 2017.
À présent, la partie magazine de cette édition à New Delhi, en Inde, a eu lieu le premier sommet de l'Alliance solaire internationale Asie le 11 mars dernier où le président Issoufou Mahamadou a représenté le Niger. Comment donc le Niger prévoit-il de faire son avancée dans la production d'énergie solaire d'ici 2030? Aliou Audi Diallo, conseiller technique de la ministre de l'Énergie, nous fait le point au micro de Rehilatou Soumana.
Nous n'avons pas la prévision sur 2030. A priori, parce que nous sommes en train de travailler sur le schéma directeur production-transport du Niger en tant que tel. Les études sont en cours. Les projets en solaire dans l'immédiat, à moyen terme, je vous ai parlé des 40 MW dont les financements sont acquis, mais à côté, nous sommes en train de changer et 70 MW en plus pour placer, notamment ici à côté de Niamey, à Gorobanda, 30 MW. Les régions de Tillabéri, la communauté urbaine et Dosso, on veut placer 10 à 20 MW. Donc, Tawa a déjà la centrale de Malbaza, Agadez a déjà la centrale hybride qui se fera. À Difa, nous voulons hybrider comme Agadez. Ça va être une petite capacité de 5 à 10 MW probablement. Zander, Maradi et Tawa, nous voulons aussi voir dans quelle mesure nous pouvons injecter autour d'une trentaine de MW. Bon, ça, c'est des chiffres a priori indicatifs. Les études sont en cours pour confirmer quelle est la capacité qui pourrait nous permettre déjà de régler les problèmes immédiats. C'est le chef d'État en personne qui est parti pour traduire l'intérêt du Niger à cette organisation. Et le Niger avait déjà préparé 3 fiches. Donc, une fiche pour les mini-réseaux où on a 250 villages à électrifier, 100 par mini-réseau, 150 par kit solaire avec tout l'arsenal pour l'irrigation, avec le raccordement des centres de santé, des mécanismes de génératrices de revenus, notamment pour les femmes. La deuxième fiche qu'on a amenée là-bas, c'est l'écuseur solaire. Parce que vous savez que le Niger est un des précurseurs en énergie solaire à travers l'Onersol et maintenant le CNESC qui a pris la place de l'Onersol. Donc on a une fiche qui vise à promouvoir 36 000 cuiseurs solaires accompagnés de 4 000 séchoirs. À côté de ça, il y a les villages intelligents qui sont en train de se déployer où on a l'électricité avec l'Internet, etc., etc. Donc, et le processus d'acquisition des financements, il a une certaine durée. On va les travailler certainement pour faire les études d'abord. Une fois que les études ont circonscrit en contenu et en montant ce qu'il faut pour réaliser ces 3 fiches, nous allons aller vers l'Alliance. Et nous allons travailler avec elle pour chercher les financements. Parce que les financements, pour vous donner une idée, on parle de 1 000 milliards de dollars qui seront financés à des conditions qui se veulent être très abordables pour les pays membres.
Fin de ce journal. Merci de votre attention. Le Forum de la presse, c'est tout de suite.